un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Le cliché veut qu'il s'habille en Stan Smith blanche, immaculée, en jean et chemise relax. Qu'il se tutoie, qu'il soit souriant et bienveillant, efficace et dispo. Dans leur travail, ils utilisent beaucoup d'anglicismes. Ils sont business developer, digital project manager, weekend editor, fullback engineer ou encore, bien sûr, happiness manager. Ça, on rêve de rencontrer. Et parfois aussi, ils sont consultants en consulting. Quantité de noms qui font ronfler ce qui parfois n'est que vide abyssal ou sidéral. C'est comme si on appelait un commercial un salesman éditeur, un laveur de carreaux un surface technician supervisor ou un livreur Uber un exterior delivery engineer. Pour donner de l'importance à un travail avilissant et parfois mal payé. En anglais, c'est plus stylé. Joseph, 42 ans, par exemple, travaille comme planeur stratégique dans une agence de publicité, mais il est en train de changer pour une start-up où il sera brand content manager. Sauf qu'il n'a pas la moindre idée de ce que ça signifie. Et quand il a été engagé, on lui a parlé de compensation et de package et non de salaire. Il fera sûrement comme avant des workshops d'idéation, c'est-à-dire chercher des idées, des off-site meetings, autrement dit des réunions avec des vrais gens. Et il cherchera des story leading, traduction, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire en fait. Produire du néant pour vendre du néant avec beaucoup de strates de validation, de bureaucratie, des PowerPoint, des slides et jamais aucune idée. En somme, un boulot complètement inutile, du vent, du blabla, bullshit. L'expression a été inventée par l'anthropologue David Graeber en 2018 dans son livre nommé également Bullshit Job, a Theory, qui a été publié en français la même année. Émiettement des tâches, mutation du travail, les bullshit jobs ou jobs à la con sont-ils le mal du siècle ? Interrogeait Le Monde. À écouter nos deux témoins tout de suite dans les pieds sur terre, il semble qu'une certaine jeunesse ait pris la mesure du désastre. Reportage Émilie Chaudet.
Je m'appelle Charles. J'étais journaliste de 2008 à 2016, l'année où j'ai décidé de me reconvertir en tant que consultant marketing. Donc j'avais 30 ans, j'avais plus de boulot depuis quelques temps déjà. J'étais freelance, c'est une façon pudique de dire que je vendais des articles les uns après les autres, un peu à la petite semaine. Et un jour, j'ai cette amie qui me parle du travail qu'elle fait, qui consiste à aller chez les gens, partout en France, et visiter leurs placards, leur cuisine, s'effacer avec eux, être à leur côté quand ils cuisinent ou quand ils mangent du chocolat, et leur faire dire des choses sur leur usage du quotidien et leur usage du shampoing ou de la façon dont ils conçoivent d'aller au supermarché, dans quel état d'esprit ils y vont, limite d'y aller avec eux, de vivre quelques jours avec eux. Enfin, elle me dit que ça s'appelle des études qualitatives. Au moment où on en parle, je venais de vendre un reportage que j'avais fait à l'autre bout du monde sur les migrants syriens en Arctique, que j'avais vendu 150 euros, texte et photo. Et là, elle me parle d'un métier qui est payé tous les mois, 2800 euros par mois, quelque chose comme ça. En tant que journaliste, j'avais jamais imaginé gagner ça. Et je me dis vraiment que, enfin, elle est dans le vrai et je suis dans l'errance, en fait. Donc j'avais pas d'a priori, j'avais pas de crainte non plus. J'étais vraiment prêt à pas mal de choses pour trouver un boulot et faire enfin quelque chose qui m'amènerait plus loin, quoi. Je me rappelle qu'au moment du recrutement, ce que eux ont vu en moi, comme j'avais l'étiquette journaliste, ils se disaient « super, c'est quelqu'un qui écrit au kilomètre et qui va pouvoir justement nous aider à trouver les bons mots qui font mouche ». Et du coup, je devenais naturellement chargé d'études qualitatives. J'ai été embauché au mois de juin pour 6 mois, pour une première période d'essai, mais il était déjà convenu que j'en ferais au moins 2. Je me rappelle de mon premier jour. J'étais hyper volontaire, j'avais une nouvelle chemise, j'étais tout propre, j'étais hyper content. On m'a donné un bureau, un téléphone, des cartes de visite, enfin j'en pouvais plus. Donc je vais voir tout le monde et je leur dis, mais alors voilà, comment, à qui je peux être utile, qu'est-ce que je peux faire? Et donc on me demande de faire un benchmark. Pas de problème, je vais faire un benchmark. J'ai déjà entendu ce mot, en plus ça me dit quelque chose. Je vais quand même le googler pour être sûr. Tout ça pour me rendre compte en le faisant que ça consistait à faire une recherche sur Internet en fait. Et à consigner les résultats de la recherche sur un PowerPoint. Sachant que comme je voulais bien faire, j'ai commencé à passer des coups de fil, parce que c'était un réflexe que j'avais. Mais à la fois, c'est des études pour des clients privés, qui veulent surtout pas qu'on sache sur quoi ils travaillent à l'extérieur et tout. Donc on m'a très vite dit, laisse ton téléphone tranquille, arrête de chercher des réponses partout, il y a beaucoup de choses sur Internet. Je me demande comment ce métier existait avant Internet d'ailleurs. Mais en fait, on m'a très vite dit, mais un benchmark... Tu colles des images, tu colles des mots, ça doit aller très très vite. Tout devait aller très très vite et tout devait être rendu avant-hier. Il fallait vraiment être très à fond et très conscient du fait qu'on était en retard, toujours en retard, et qu'il fallait être très efficace. Enfin, c'était quelque chose qui était très valorisé. Et en fait, quand on vendait une étude, on vendait aussi un volume d'interviews qui allait avec. On menait des interviews de consommateurs. Et on leur demande de... voilà, si ils aiment manger du chocolat, regarder des séries, séduire, se sentir joli. Et donc on passait effectivement 3 heures avec chaque personne à dérouler notre questionnaire. Moi en tant que junior, on m'envoyait volontiers faire les interviews et j'y allais volontiers et tout ça, mais on me demandait de faire un rapport oral en fait sur 15 interviews que j'avais fait dans la semaine, sachant que je travaillais sur 3 ou 4 études en même temps. Ça faisait beaucoup d'interviews et beaucoup de boulot pour rien en fait. On me disait souvent, en gros, les idées, la réflexion, c'est pour les seniors. Toi, tu es junior. Donc tu es là pour mener les interviews, te rendre sur le terrain, voler des photos sur Internet. Et s'il manque 20 slides la veille, bah, c'est toi qui t'y colle. T'as pas besoin de sommeil, t'es un jeune. J'étais pas du Serail, j'avais pas fait des études de marketing. C'était un institut qui cultivait pas mal ça. Le fait justement de prendre des... fait un peu écho à la politique d'aujourd'hui, de prendre des amateurs. C'était vraiment, soyez fiers d'être des amateurs, quoi. Je me rappelle notamment de cet été, là, où j'étais resté au bureau avec 2-3 briefs comme ça que j'avais pris entre 2 coins de porte. On m'avait dit, tiens, fais un truc sur le sexiness de la marque, l'aspirationnel pour la cible, du système de benefit laddering... ok, pas de problème. Et après, me retrouver à googler, alors, benefit laddering, ok, qu'est-ce que c'est, d'accord, c'est définir des priorités, bon, ok. Du coup, il y a eu ce sentiment qui s'est installé au fur et à mesure, et qui s'est confirmé de pas savoir finalement à quoi ça servait. J'avais vraiment à cœur de faire bien et tout ça, mais quand je m'asseyais devant mon ordinateur, c'était des abîmes de perplexité, quoi. Jusqu'au jour, j'ai le souvenir d'un week-end où, comme d'habitude, je prenais mon ordinateur pour travailler parce qu'il fallait être prêt pour la réunion du lundi matin. Et là, il s'agissait de étudier l'impact d'un stand dans un salon de la marque. J'étais en week-end avec des amis et j'ai un ami comme ça qui, lui, est un marketeur. Il est responsable marketing. Enfin, et du coup, il m'a dit, mais attends, t'as des slides à faire, mais vas-y, je te les fais en 2-2, vraiment. Et effectivement, il me les a fait en 5 minutes en me disant, bon, je sais qui vous êtes, vous êtes un cabinet d'études qualitatives, je travaille avec ces gens-là, vous êtes les baratineurs de service, donc on va pas avoir peur de grossir le trait et tout ça, quoi. Donc là, tu arrives devant ton stand, tu as la vision, donc t'écris transversalité en gros, tu sais pas pourquoi, mais t'inquiète. On sort les gros mots là, vas-y, transversalité, hop, à 360. Là, il y a une tension, c'est clair, entre, voilà, on n'a pas envie de s'arrêter, mais ça donne envie. Voilà, tu dis au client que ça donne envie, il entendra que ça de toute façon. Et hop, ça donne envie, pourquoi ? Parce qu'il y a des touch points, la couleur, c'est un atout plus plus. Il écrit comme ça, atout plus plus. Et vraiment, il m'avait torché ce truc en 5 minutes. Et d'ailleurs, ce mot de torcher, ça me fait penser à une expression un peu vulgaire. C'était un jour, notre directeur d'études qui nous a dit « Bon, là, on a un truc, le budget est pas terrible, faut le faire rapidement, donc on va faire ce qui s'appelle « chier propre ». Et là, tu sais ce que ça veut dire, « chier propre », ça veut dire qu'on va faire de la merde, mais sans éclaboussure. Mais par contre, on va clairement faire un truc à la va-vite. Et en fait, de là... Quand j'ai vu ce pote faire, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est à ça que vous jouez tous. J'ai eu un espèce de vertige, en fait, en me disant, mais en fait, tous ces gens en costume gris qui vont bosser à la défense, qui font des réunions en permanence, parce que aussi, on avait affaire à des grands groupes français qui ont pignon sur rue et tout ça. Donc, et je voyais le niveau de la réponse qu'on leur apportait, quoi. Et surtout, je voyais que les clients s'en satisfaisaient vachement. Et du coup, ça me travaillait beaucoup, ça m'empêchait un peu de trouver du repos, quoi. Et en plus, ce sentiment que je cultivais et qui grossissait, en fait, en moi, d'inutilité, de... Après, j'ai tenu encore 3 mois. Jusqu'à ce que mon corps me lâche, en fait. Ça m'était jamais arrivé de faire des insomnies. J'ai connu les premières crises d'angoisse. Ça m'était arrivé lors d'une séance de sémiologie, où un autoproclamé sémiologue était venu nous parler de la séduction chez les jeunes. Le client était ravi. Et moi, j'avais l'impression qu'il jouait à ce jeu-là, à la comptine. Trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule. Moi, je prenais les notes de cette présentation. Du coup, c'était encore pire, parce que je pouvais vraiment pas ignorer ou débrancher, quoi. J'étais vraiment obligé d'écrire tout ce qu'il disait. Et pour le coup, ça tapait en moi, quoi. Je me suis levé un moment complètement en nage, en disant, excusez-moi, je sais pas du tout ce qui m'arrive. Je suis tombé dans les pommes. Il y avait la personne qui s'occupe de l'entrée, qui m'a pris en charge. Mais en fait, bizarrement, dès que j'ai arrêté d'écouter sa logorée verbale, je me sentais mieux. Et je me suis remis, ouais, avec un verre d'eau, un café. Et puis, je suis retourné, parce que de toute façon, il fallait que quelqu'un prenne les notes. Mais c'était parmi les premières alertes, quoi. Et puis jusqu'au jour où je suis allé voir le médecin parce que j'avais vraiment une grippe carabinée, quoi. J'étais vraiment très mal, très enrhumé. Je lui ai dit, bon, alors j'aimerais des médicaments pour la grippe. Et puis, puisque je suis là, j'aimerais vous montrer aussi des petits boutons qui sont nés là dans le dos et tout ça. Et à travers les boutons, il me dit, mais en fait, vous n'avez pas de grippe du tout. Vous avez un zona. Et c'est un truc qui n'arrive qu'en cas de choc émotionnel extrême ou de stress. Il m'a prescrit des trucs qui étaient des neuroleptiques, quoi. Enfin... À ce moment-là, je me suis dit, je vais bifurquer. Et en fait, j'ai fini par arrêter cette expérience. J'ai fait 2-3 rendez-vous après pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'on fait dans les autres boîtes et tout, mais en vrai... Plus jamais je remettrai les pieds là-bas, quoi. Je suis retourné à la fac l'année dernière. J'ai fait des stages dans des écoles. Et je viens de passer le concours de recrutement de professeur des écoles. Je travaille en parallèle comme AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Je m'occupe d'enfants autistes. J'ai entrepris cette reconversion il y a 2 ans maintenant. Là, pour le coup, s'occuper des enfants, en fait, même si on y va sans préparation ou sans poste précis, juste consacrer du temps aux enfants, mais c'est le mieux que je puisse faire, je pense.
Je m'appelle Mathilde Ramadier, j'ai 33 ans aujourd'hui et j'habite Berlin, entre Berlin et la France depuis 10 ans. Je suis arrivée dans le milieu des startups un peu par hasard puisque j'étais à Berlin en septembre 2011. Je venais de m'installer, je n'avais pas de projet professionnel encore très précis. Je réfléchissais à m'inscrire en thèse. Enfin voilà, j'étais une jeune femme de 23 ans qui se pose des questions, qui essaye des choses. Et le secteur le plus dynamique, qui embauchait le plus, en tout cas sur le papier, c'était celui des startups. J'ai compris ça très vite. Le vrai premier job en startup véritablement que j'ai eu, c'était un job de freelance. En fait, j'ai été très peu embauchée. C'était un grand open space avec une cuisine à côté. La première chose qui m'a frappée, c'est ce frigo immense avec plein de boissons colorées à l'intérieur. J'ai compris que on pouvait servir, il y avait souvent des choses à manger, tout était gratuit. Je me souviens avoir vu un chien aussi, parce que les employés qui avaient des chiens avaient le droit de les emmener. Donc j'ai vraiment ressenti cet esprit d'ouverture, cool en fait. On vient comme on est, personne regarde l'heure, c'est assez ouvert d'esprit. Et en revanche, dès qu'il a fallu se mettre au travail, je me souviens avoir ressenti un peu de stress parce que personne n'avait vraiment pris le temps de m'accueillir. J'avais des consignes en fait par mail, alors que la personne qui aurait pu m'accueillir était là avec moi dans l'open space, mais elle était occupée. Donc j'ai senti tout de suite que tout était virtualisé. Mon job était des plus classiques, hein, sauf qu'il avait un autre nom. Alors c'est Success Custom Manager. En fait, on était le manager, on était en charge du succès, enfin de la satisfaction client, voilà. C'est un peu comme les happiness managers, les managers du bonheur, voilà. C'était déguisé sous un terme exagérément positif et bienveillant. J'avais un job de commercial alors que j'avais aucune formation pour ça. Donc j'appelais des potentiels clients pour leur vanter les produits de cette start-up. C'est un travail ingrat, inintéressant. On appelle des gens qui ont autre chose à faire, qui n'ont pas du tout envie de nous parler. On se fait jeter. Voilà, on remplit des bases de données. Il y a beaucoup de tâches ingrates et répétitives qui n'ont rien d'innovante en fait. Et tous les matins, la manager qualité faisait un débriefing de la veille, hein, puisque tous les appels qu'on passait étaient enregistrés. Donc elle savait tous les jours combien d'appels on avait passé, quelle était la durée moyenne d'un appel, si cet appel avait été à succès ou un échec. Donc chaque soir, je notais sur le tableau Velleda, sur la ligne correspondant à mon nom, le nombre de dossiers que j'avais bouclés. Et le lendemain matin, quand j'arrivais à 9h, la journée commençait avec ce rituel, c'est-à-dire que un par un, on était appelé au bureau de la manager qualité, quality manager, qui décortiquait le travail qu'on avait fait la veille. Et donc tous les matins, il y avait un classement. Je me rappelle avoir ressenti vraiment une sidération. Donc il y avait des résultats sous forme de pourcentage qui étaient comparés. Et il y avait, comme chez McDonald's, sur un tableau, le nom du meilleur employé de la semaine. Alors cette toute première entreprise dans laquelle je travaille pour le service client, je suis partie au bout de 10 jours. Donc c'était très rapide, mais j'étais freelance en fait. Donc de même qu'ils pouvaient me virer quand ils voulaient, moi je pouvais partir quand je voulais. J'étais payée à l'heure, 10 ou 12 euros de l'heure. Et donc, quelques années plus tard, j'ai été embauchée dans une start-up. J'ai signé un contrat de 6 mois, donc un CDD. J'étais payée 1300 euros bruts. Je me souviens avoir été très bien accueillie pour l'entretien d'embauche qui s'était déroulé en la présence de la jeune DRH, très très jeune DRH, hein, qui était plus jeune que moi, qui devait avoir 22-23 ans. J'étais dans l'équipe éditoriale, on était 3. Il y avait ce collègue écossais et une collègue allemande qui s'occupait de tout le contenu en allemand. Le site était en 3 langues. Donc on vendait des objets de design et du mobilier. Et moi, j'étais manager de contenu, comme on dit, content manager. Donc je m'occupais de tout le contenu du site français, c'est-à-dire les descriptions de produits, les newsletters, tout, absolument tout. « les tâches étaient assez répétitives et assez ennuyeuses. Mais dans cette start-up-là, j'ai vraiment cherché à apporter des idées, à entreprendre. J'avais proposé la création d'un blog. Donc, quand j'avais fini mon travail, en fin de journée, je réfléchissais à ces idées nouvelles. Donc, j'avais eu un peu cette illusion de pouvoir être force de proposition. Et finalement, ça n'a jamais rien donné. J'ai jamais réussi à déclencher une réunion pour qu'on en parle, parce que les managers concernés n'avaient pas le temps. Donc là aussi, je m'étais retrouvée prisonnière de process de travail, alors que l'une des promesses de ce monde-là, c'est qu'on est libre d'entreprendre, qu'on peut être créatif, qu'on peut être force de proposition. Tous les jobs que j'ai faits dans les startups étaient des bullshit jobs, en fait. Écrire des newsletters pour vendre un produit absolument inutile, remplir des bases de données, de fichiers clients, donc faire du copier-coller toute la journée dans des tableaux Excel, vraiment toute la journée pendant 9 heures, appeler des clients pour leur vendre un produit dont ils n'ont pas besoin. Je me souviens avoir vraiment ressenti plusieurs fois en rentrant du travail à vélo, je me souviens garer mon vélo dans la cour de l'immeuble, monter les escaliers d'un pas lourd et de m'affaler à la table de la cuisine. Et je me rappelle avoir craqué plusieurs fois quand même en étant en pleurs et d'avoir cette impression que je perdais mon temps, que tout ça n'avait aucun sens, ni pour moi ni pour les autres. J'avais un BTS de communication visuelle, donc j'étais graphiste. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait des études, en fait? C'est pour en arriver là. On finit par sentir bon à rien, en fait, sans aucune perspective, puisque tout cela se répète. Dans cette start-up-là, on était donc cette petite équipe de 3, de l'équipe éditoriale, et on n'avait pas envie de vivre cette servitude volontaire éternellement, en fait. Et on a décidé de démissionner tous les 3 en même temps. Mais moi, j'ai démissionné 2 semaines avant la fin de mon contrat, donc c'était vraiment pour poser un acte symbolique. Et cette pauvre DRH qui avait 23 ans, qui était toute jeune, qui n'avait aucune expérience de travail auparavant et peu d'expérience de vie, avait un peu paniqué, nous avait vu arriver tous les 3 avec notre lettre à la main, et elle avait un peu essayé de sauver les meubles et de nous dire « mais enfin, mais bon, vous avez l'impression qu'il manque de communication, mais si maintenant je vous dis que ça va changer, qu'on va faire quelque chose... » Voilà, elle a essayé de nous retenir. Et on avait surtout insisté pour que nos revendications, enfin nos remarques plutôt, remontent jusqu'au PDG, en fait. Nos remarques, c'était surtout des remarques de management. On dénonçait aussi ce flicage, hein, que dans cette start-up-là, on était quand même très surveillés aussi, hein, nos performances, tout était consigné dans un autre logiciel aussi de ressources humaines, en fait, dans lesquels on devait noter chaque semaine nos objectifs personnels de travail. Concrètement, chaque semaine, sur cette plateforme, on avait un profil, comme sur un réseau social, et on devait noter nos 3 objectifs de la semaine. Donc, par exemple, pour moi, c'était « je vais écrire de meilleures newsletters pour attirer plus de clients ». Voilà, c'était des phrases aussi bateaux que celle-là, aussi évidentes. Mais l'effet pervers, c'est qu'une fois encore, ça prenait la forme d'une plateforme qui avait été conçue pour ça, designée pour ça, et que ces profils étaient publics. Donc moi, je pouvais voir les objectifs de mes collègues, et on pouvait les liker ou non, comme sur un réseau social. On pouvait se noter les uns les autres sur nos objectifs respectifs, et c'était totalement absurde. On avait aussi une fois par mois des réunions, en fait, qui étaient un peu comme des mini-conférences où chaque manager de chaque équipe venait présenter le travail de son équipe. Et il avait 15 minutes maximum, c'était un peu comme une conférence TED. Il devait présenter des slides, il y avait de la musique, c'était du vrai divertissement. Et après chaque présentation, on recevait tous un mail en interne et on devait noter cette personne. On devait noter la prestation de cette personne, donc à la fois noter son travail, mais aussi la façon dont il l'avait présenté. Donc on était tous, en fait, un peu des... Je nous sentais un peu comme des clowns. On devait aussi beaucoup travailler sur notre image, se mettre en avant. Et tout ça nous avait profondément écœurés. Donc On parlait de tout ça et on a démissionné, on a demandé à ce que l'information remonte jusqu'au PDG, ce qui a été fait. Et voilà, il n'a jamais réagi au contenu de nos revendications. On était partis après tout, on allait être remplacés par d'autres et il était persuadé, cet homme, comme tant d'autres, d'être finalement dans le clan des gagnants. On ne rentrait pas dans ce moule-là, donc finalement, bon débarras. Quand on a passé la porte de cette start-up pour la dernière fois, je me souviens qu'on a eu un fou rire dehors et qu'on avait pris nos vélos et puis on est allé boire un verre pour fêter ça. Je me suis sentie libérée parce que je savais que c'était la dernière fois. J'ai été portée par ailleurs par d'autres projets professionnels qui m'avaient embarquée. J'écrivais des livres et je travaillais pour la presse, je faisais de la traduction. Je savais que c'était ça qui allait me porter, c'était ça qui allait donner du sens à ma vie et que j'avais décidé de faire quelque chose de concret et d'utile et ne plus participer à cette servitude volontaire, à ce système que je critiquais tant et qui est plein de fausses promesses et qui rend toutes ces petites mains malheureuses, hein, depuis les chauffeurs Uber jusqu'aux petites mains des plateformes.
C'était Bullshit Job, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Émilie Valla avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en 2020. Merci à Charles et à Mathilde. Attachée de production, c'est Céline Paris et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello. Ein Dach, unter dem ich stets gut aufgehoben.